Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec des journalistes du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite un très joyeux Noël.
Les séries audio de Podcasting, Girondins de Bordeaux, un monument en péril.
Pour cette semaine de Noël, nous vous proposons une série de 5 épisodes entièrement consacrée au club des Girondins de Bordeaux. Cette véritable institution dans la région vit des moments compliqués depuis quelques années. Nous vous avons présenté son histoire, nous avons évoqué son actualité, et ce dernier épisode est consacré à la place qu'occupe le club dans le cœur de ses supporters. Mais nous aborderons aussi la façon dont leur ferveur est mise à rude épreuve ces dernières années. Nous allons en parler avec le co-auteur du livre Ultramarine Bordeaux 1987-2007, 20 ans d'histoire. Bonjour Laurent Perpignat-Iban.
Bonjour Jean.
L'autre auteur de votre livre s'appelle Sylvain Leroy. Laurent, vous êtes journaliste indépendant, vous êtes déjà intervenu dans Podcasting. Vous êtes aussi un supporter presque historique des Girondins de Bordeaux.
Historique, je ne sais pas, je ne crois pas. Je suis quand même assez jeune, hein, je tiens à le rappeler. J'ai commencé à parcourir les travées de l'Escure en deuxième division avant de commencer à m'abonner pendant l'époque à Fleulou.
Allez, on va laisser dire que vous êtes jeune, c'est Noël. Laurent, les supporters les plus nombreux et les plus fidèles aussi des Girondins de Bordeaux s'appellent donc les Ultramarines. On les a évoqués lors du précédent épisode avec vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce groupe ?
Alors les Ultramarines, c'est un groupe ultra, une association reconnue loi 1901 qui a été créée en 1987 à Bordeaux après la confrontation face à la Juventus de Turin quelques années auparavant. Alors il faut savoir que le virage sud a eu une histoire bien avant la création des Ultramarines. C'est là qu'étaient rassemblés l'immense majorité des supporters les plus fervents, ceux qui ne se contentaient pas de regarder uniquement le match, ceux qui étaient là pour chanter, pour crier. Dans les années 80, le virage sud était un repère de punk, de loubar, presque une zone pas très safe, comme on la décrivait à l'époque. Et là-dessus, après la confrontation face à la Juve, une génération a décidé de prendre les choses en main et d'organiser l'ambiance, d'organiser quelque part le bazar ambiant.
Avant d'aller plus loin, et pour celles et ceux qui ne sont pas familiers du terme, est-ce que vous pouvez-nous dire ce qu'est un supporter ultra ?
Un supporter ultra, alors c'est difficile à expliquer parce qu'il y a effectivement plusieurs visions de ce mot. Un ultra italien et n'est pas pareil qu'un ultra français, on ne peut pas lui attribuer la même définition ni les mêmes caractéristiques. Néanmoins, la différence entre un supporter ultra, je vais surtout parler de groupe ultra, c'est un groupe qui est organisé avec une structure, avec une hiérarchie dedans et surtout avec une activité passionnée et passionnelle pour son club de football. Un ultra ne compte pas les kilomètres, un ultra souhaite accompagner son équipe absolument partout où qu'elle joue, quelles que soient les conditions météorologiques ou la distance. Un ultra est prêt à parcourir des milliers de kilomètres en stop pour aller supporter son équipe à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe. Un ultra va passer des semaines et des mois dans des hangars à préparer des tifos, des grands spectacles qui seront dévoilés à l'entrée des joueurs sur le terrain. Bref, un ultra vit pour son équipe et avec son équipe. Je crois que c'est la caractéristique principale qui peut s'appliquer à tous les ultras dans le monde entier.
Pour quelles raisons personnelles vous avez-vous choisi de devenir un ultra et de vous investir dans ce mouvement ?
Alors, j'ai jamais trop. Ça n'a pas été un choix de devenir un ultra. Je crois que c'est quelque chose qui s'est un petit peu imposé à moi. On est tous au départ des passionnés de foot. On le reste, hein, mais au départ, on est vraiment des passionnés de foot. On se rend au stade et puis il y a quelque chose qui nous marque à différents degrés. Et moi, personnellement, ça m'a profondément marqué. Ce qui marque quand on regarde un match de football, c'est l'ambiance. C'est ces gens qui vivent ce match de manière passionnelle tous ensemble. C'est ces grands mouvements de foule où vous avez 3 à 4 000 personnes qui hurlent d'une seule voix, qui réalisent des gestuels absolument extraordinaires et qui rajoutent au spectacle un deuxième spectacle, un spectacle qui se déroule dans les tribunes et un spectacle extrêmement populaire. Moi, ce qui m'a vraiment attiré dans cette tribune, c'est cette anarchie ambiante, l'image d'anarchie qu'on peut en avoir, c'est-à-dire des milliers de supporters bras dessus, bras dessous, en train de réaliser une énorme fête. J'ai eu envie de me joindre à eux et puis surtout de vivre ce match collectivement, parce que je crois encore une fois que là, c'était pas aussi réfléchi à l'époque quand j'avais 12 ou 13 ans, mais aujourd'hui, quelque part, je peux l'idéologiser. Ce qui est important, c'est de vivre le match collectivement. Et le football, c'est avant tout une émotion collective, donc c'est là que ça prend tout son sens. Laurent, est-ce que vous avez des souvenirs, des anecdotes particulièrement marquantes de vos années ultra que vous pouvez nous confier ?
Oui, il y en a. Alors c'est impossible d'en citer une parce qu'il y en a des anecdotes. En fait, ce sont les anecdotes qui sont presque la normalité. Hein. Souviens être parti en stop jusqu'à Ajaccio pour voir un match, revenir jusqu'à Bastia, pardon, pour voir un match des Girondins de Bordeaux, revenir et me dire non, là il faut qu'on reparte, on part en Slovaquie et il faut qu'on aille louer un minibus et puis on va se traverser l'Europe en oubliant sa carte d'identité, en essayant de passer les frontières sans se faire arrêter. Voilà, des souvenirs comme ça, c'est vraiment ce qui fait le cœur de notre activité ultra. Et puis, il y a tous ces moments passés avec nos camarades dans des bus, des pannes, rester 10 heures bloqués dans une station service alors qu'on revient de Monaco et que l'on est en travail. Ces moments-là, après, avec le temps, se transforment en sourire, en super souvenir parce qu'encore une fois, on vit des galères, mais on les vit ensemble. En fait, on les vit au travers d'un groupe humain constitué avec des gens qu'on connaît mieux que personne. C'est presque devenu des colocataires.
Quelle est la place des Girondins de Bordeaux dans le cœur des amateurs de la région ? On a le sentiment que le club fédère bien au-delà de la Gironde et même de Bordeaux. Pour quelle raison ?
Les historiens vous diront, parce que les Girondins de Bordeaux devraient s'appeler les Girondins d'Aquitaine, notamment Paul Nogues qui disait ça à l'époque, il y a une dimension régionale qui dépasse complètement le cadre de la ville de Bordeaux. Il se fait que nous avons une des plus grandes régions de France, alors que ce soit l'Aquitaine ou aujourd'hui la Nouvelle-Aquitaine, et puis surtout une région qui n'a connu qu'un seul club dans l'élite, c'est-à-dire les Girondins de Bordeaux. Et également le fait que tout un tas de joueurs dans les années 70, 80, arriver des quatre coins de cette région pour venir jouer dans cette équipe-là. Et ça a vraiment rapproché quelque part le territoire de la ville et de ce club. Maintenant, le football a énormément évolué et c'est aujourd'hui un défi, un challenge majeur pour les Girondins de Bordeaux de continuer à ratisser large, de continuer à fédérer tout un territoire derrière eux. À une époque où le football est mondialisé, à une époque où quelque part il est de mode de supporter l'équipe qui gagne, c'est plus qu'un challenge, c'est un défi qui est important pour la survie du club.
Alors Laurent, depuis quelques années, on a le sentiment qu'il est devenu de plus en plus difficile de soutenir les Girondins de Bordeaux. Et il y a le contexte sportif qui est morose, on l'a vu dans le dernier épisode avec Laurent Brun. Mais il y a aussi une politique de plus en plus répressive de la part des pouvoirs publics.
Ouais, il y a eu différentes vagues de répression qui ont marqué l'histoire des tribunes populaires et notamment du virage sud à Bordeaux. L'anarchie dont je parlais, ce sentiment vraiment d'une zone hors de contrôle, a bien évolué. Donc on n'a déjà plus de tribune debout depuis 97 à Bordeaux. Maintenant c'est une tribune où il y a des sièges, mais où les supporters restent debout. Il y a une volonté de l'État de contrôler, d'encadrer les déplacements de supporters à cette époque-là. Donc il était pas rare que notre autobus était escorté en arrivant par exemple à Paris depuis Saint-Arnoult, voire suivi par la police déjà depuis le départ à Bordeaux. Ça, c'était vraiment les premières étapes. Ensuite, il y a les interdictions administratives de stade où la préfecture pouvait décider que tel ou tel supporter était dangereux et présentait des risques de troubles à l'ordre public et que temporairement décider de l'écarter des stades administrativement sans jugement ni quoi que ce soit. Sous couvert des problèmes de violence existants dans les stades, mais pas réellement représentatifs d'une réalité, l'État français a légiféré en la matière matière et a décidé de contrôler ces zones pour réduire déjà d'une leur liberté d'expression, pour réduire le pouvoir qu'ils pouvaient avoir également, parce que quand on a un groupe ultra, et on l'a vu notamment dans les révolutions à l'étranger, notamment la révolution égyptienne et tunisienne, les groupes ultra aujourd'hui sont un des ciments de la société puisqu'ils rassemblent entre 2 et 3 000 personnes parfois. Donc il y a une volonté de contrôle absolu sur ces tribunes et ça a largement compliqué la vie de groupes tels que les nôtres.
Plusieurs responsables d'ultra, de différents clubs d'ailleurs, alertent depuis quelques années. Ils estiment que ces politiques répressives que vous venez d'évoquer en préparent d'autres. Est-ce qu'ils ont raison d'alerter ?
Tout à fait, l'histoire l'a prouvé, hein, sur les interdictions administratives de manifestations durant la crise des Gilets jaunes, ce n'était qu'un copier-coller de ce qui avait été appliqué aux supporters avant. Les supporters de football et les banlieues ont été en France les deux principaux laboratoires répressifs pour l'État français. Encore aujourd'hui, on voit avec la loi sécurité globale qu'elle puise encore une fois ses racines de ce qui a été appliqué sur les supporters de football. Et ça rejoint quelque chose que nous, on a souvent regretté, c'était d'hurler seul dans le désert. Aujourd'hui, il y a une médiatisation de ces questions-là. Mais croyez-moi, il y a 10 ans, la question des droits des supporters, tout le monde s'en foutait. C'était absolument pas une préoccupation. C'était une préoccupation pour personne. Une espèce de mépris de classe qui était associé aux supporters de football, qui finalement n'étaient que des personnes avinées, violentes et racistes. Aujourd'hui, la société a évolué et porte un autre regard sur les groupes de supporters, est en train de se rendre compte que peut-être que si elle avait, à cette époque-là, été plus ferme envers ce que les supporters subissaient, aujourd'hui, de telles dérives dans notre société n'existeraient pas.
Laurent, on va terminer quand même sur une note positive. On a évoqué quasiment exclusivement l'équipe masculine depuis le départ de cette série, mais il y a une section féminine qui existe depuis quelques années, qui brille et vers laquelle beaucoup de supporters sont heureux de se tourner.
Oui, alors nous on y a été, hein, notre association s'est rendue plusieurs fois voir les matchs des féminines, mais quel bonheur! Quel bonheur, parce que quelque part, ce qu'on a perdu, ce que notre football a perdu, en se professionnalisant en outrance, le business, le star system. En fait, on retrouve les vraies valeurs populaires du football, avec des équipes, avec des joueuses qui se battent, qui veulent gagner. Et surtout, on n'est pas les supporters d'une équipe, on est les supporters d'un club. Et ça, c'est aussi un dénominateur commun aux ultras. Non, ce qu'on supporte, c'est l'institution. C'est le club des Girondins de Bordeaux. Les filles en sont aussi les représentantes. Alors effectivement, c'est difficile pour nous, en tant qu'association ultra, de supporter ces deux équipes différentes, puisque notre engagement est entier et qui nous mène à faire des sacrifices et des milliers de kilomètres. On n'a pas les moyens humains de se dédoubler. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et on est de tout cœur derrière ces féminines. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life.
Laurent, ce sera ma dernière question. Qu'est-ce qui pourrait permettre aujourd'hui à une petite fille ou un petit garçon d'avoir de nouveau les yeux qui brillent, le cœur qui bat pour les Girondins de Bordeaux?
Je pense que avant toute chose, ils ont besoin de joueurs exemplaires, de figures dans une équipe, et d'avoir un recrutement qui soit à la hauteur des espérances, c'est-à-dire des grands noms, ou alors du moins des joueurs comme Gourcuff à une époque, qui avait quand même été le responsable de l'arrivée de milliers de supporters des Girondins de Bordeaux, puisqu'autour de sa personnalité, il avait réussi à fédérer beaucoup de monde. Les supporters des Girondins de Bordeaux ont besoin de figures auxquelles s'identifier. Et les supporters des Girondins de Bordeaux et ceux qui voudraient le devenir ont besoin de pouvoir s'identifier à quelque chose qui soit plus qu'un club, comme on dit à Barcelone, c'est-à-dire un club, mais aussi son histoire, un patrimoine et une fierté. Je crois que là-dessus, on a des exemples à l'étranger qui devraient attirer notre attention. Il n'y a pas de recette miracle pour qu'un club réussisse, mais en tout cas, il y a une recette miracle pour qu'on ait une forte identification à ce club. Et cette recette, ça repose sur le respect des valeurs historiques d'un club.
Vous pensez à quel club en particulier qui pourrait être exemplaire à l'étranger ?
Celtic Glasgow, l'Athletic Bilbao. Évidemment, pour bien connaître ce club, c'est quand même extraordinaire quand vous arrivez près de Saint-Mamès et que vous avez 40 000 personnes, dont 35 000 qui portent le maillot du club. qui porte les couleurs du club, que vous avez que le club est omniprésent dans la vie des habitants de la ville, que les couleurs sont à tous les balcons. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, l'Athletic Bilbao n'a pas gagné ça grâce à ses résultats sportifs. Il a gagné ça justement parce qu'il a réussi à s'ancrer au cœur du territoire, à s'ancrer dans le cœur des gens. Je crois que c'est vraiment un exemple à suivre. Et ça serait bien que Bordeaux, avec son passif, avec son histoire, avec tout le bagage qu'on a derrière, redevienne un club qui soit tant aimé dans sa propre ville.
L'Athletic qui s'y est ancré notamment en ne faisant jouer que des joueurs nés ou formés au Pays Basque. Merci beaucoup Laurent Perpignan-Iban d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, coécrit avec Sylvain Leroy, Ultramarine Bordeaux 1987-2007, 20 ans d'histoire. Et c'est avec vous que nous concluons cette série consacrée aux Girondins de Bordeaux. Je rappelle aussi que l'interview de Pascal Rigaud, possible repreneur des Girondins, est à retrouver sur le site de Podcastine. C'est la fin de cet épisode. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feignet, Mathilde Leuil et Marion Ruault. Programmation musicale Gabriel Taïem, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcastine, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcastine, c'est l'actu dans la poche.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.